quelques versets au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Je pense que je n'ai pas besoin de vous indiquer la page dans les Bibles bleues ou dans d'autres Bibles. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se trouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il dit un soir, il dit un matin, et puis le premier. Je vous proposerai ce matin une réflexion sur le thème de l'obscurité et de la lumière, des ténèbres et de la lumière. Alors je ne chercherai pas à entretenir un faux suspense. La lumière, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Et bien, Jean, dans le prologue de son évangile, parle de la lumière. Vraiment, nous sommes amenés à parler aussi d'autres lumières, lumières et selon lumière, par la suite. Et quant à l'obscurité, aux ténèbres, nous en envisagerons trois sortes. Des ténèbres physiques, des ténèbres spirituelles et des ténèbres morales et psychologiques. Ainsi, après avoir parlé de ces ténèbres puis de lumière, nous conclurons notre propos en nous posant la question, que faisons-nous, que faire de la lumière de Christ? Nous envisagerons alors trois points. Recevoir cette lumière, vivre cette lumière, enfin refléter cette lumière de Christ. Mais tout d'abord, donc, les ténèbres. Et en premier, les ténèbres physiques. Nous pouvons lire dans le livre de l'Exode, le chapitre 10, verset 21. Je ferai un bon nombre de lectures dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et pour ne pas perdre de temps, je ne laisserai pas trop le temps de vérifier pour suivre vous-même, mais si vous avez besoin, après, je vous donnerai les références qui appuient à Exode, chapitre 10, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. Moïse étendit sa main vers le ciel et lui épaisse ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière l'un où ils étaient. Les Égyptiens sont plongés plusieurs jours de suite dans une obscurité profonde. 3 jours de ténèbres, 3 jours sans voir le soleil, sans sortir d'une nuit oppressante. Alors aujourd'hui, nous connaissons guerre d'obscurité, de nuit, quand nous ne puissions sortir à notre guise. Il ne fait jamais complètement nuit à Paris, par exemple. Jamais. Et chez vous, vous avez toutes les lumières possibles. Si jamais l'électricité vient pour être coupée, vous vous débrouillez avec des lampes électriques, la lumière de téléphone portable, etc. Donc, nous ne connaissons pas beaucoup ça. L'absence totale de lumière est si rare que lorsque nous souhaitons observer un beau ciel étoilé, nous sommes gênés par les lumières environnantes, lumière de lampadaires, lumière de fenêtres, lumière de, par des voitures. Lumière même, lueur de villes distinctes, alors distantes à l'horizon. Il n'en a bien sûr pas toujours été ainsi. Il nous faut faire effort pour nous imaginer vivre comme c'était le cas dans les siècles anciens, des soirées à la lumière d'une chandelle, une lumière fascinante, et attendant impatiemment la levée du jour. L'obscurité vécue par les Égyptiens. Une épreuve cependant insuffisante pour mener le pharaon et les Égyptiens à accéder aux demandes de Moïse et d'Aaron. L'obscurité physique qui n'est plus vraiment un problème pour nous, nous la connaissons plus vraiment, pourrait, dans des circonstances particulières, le redevenir. Je disais il y a quelque temps qu'en Grande-Bretagne, le blackout, institué au début de la guerre, avait causé plus de morts par accident que le premier bombardement. Alors, nous ne connaissons pas ça, mais peut-être gardons l'esprit que c'est aussi une grâce que de pouvoir vivre, bénéficier de la lumière physique. Les ténèbres spirituelles. Je propose une lecture dans le Somme 107, et versets 10 à 16. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la peine, ils trébuchèrent, et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les sauva de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il remplit leur vie. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa gloire. L'obscurité vécue par les Égyptiens était déjà une obscurité spirituelle, morale, autant que physique. Et ici, dans ces quelques versets du psaume 107, l'obscurité, nous le croyons, est essentiellement spirituelle. Elle est la conséquence de la situation de l'homme, d'hommes qui ont ignoré Dieu, qui se sont rebellés contre lui, qui sont tombés dans des ténèbres profondes, dans une solitude, une détresse épouvantable. Hélas, combien nous voyons de cela aujourd'hui encore. Combien d'hommes, de femmes ignorent Dieu, pensent ne pas avoir besoin de lui et de ses conseils. Combien sont malheureux, sans espoir, sans perspective de vie, obsédés, pour certains que par la mort, parfois, par la maladie, par la solitude. Combien hélas de soucis, combien d'égarements dans des drogues pourvoyeuses d'illusions. Combien de déceptions. Pas si cela vous frappe aussi, mais lorsque nous regardons des séries télévisées, des films, nous lisons des livres, des romans, combien nous voyons les protagonistes perdus dans une ténèbre et nous voyons les conséquences dramatiques. Alors Paris nous illumine, oui, Paris nous illumine, mais Paris aussi nous illumine des ténèbres. Ville bonne, ville, hélas, de pécheurs, Paris. Et dans le passé, Ninive, Babylone, et aujourd'hui, Paris. Des villes, et pas seulement des villes. Non, c'est lumière, c'est la vie. Beaucoup d'obscurité, spirituelle. Beaucoup pris dans cette obscurité, cherchent ailleurs qu'en Christ, des lumières qui les décevront. Nous verrons dans quelques instants. Que peuvent être ces fausses lumières auxquelles s'accrochent, ou dont s'approchent, nombre de ceux qui sont enfermés dans l'obscurité spirituelle qui les apprend. Obscurité, ténèbres physiques, ténèbres spirituelles, ténèbres aussi morales et psychologiques. Genèse chapitre 15, verset 12, et verset. Au coucher du soleil, un profond sommeil combat sur un homme. Et voici une frayeur et une grande obscurité d'un homme. Et c'est par contre qu'il peut en tout étonné. Abraham a déjà reçu de la part de Dieu des promesses magnifiques. Et Dieu vient tout juste de les réitérer. Mais il est content, angoissé, envahi par une grande obscurité. Ce n'est pas seulement l'obscurité de la nuit. Où il est possible aux croyants de connaître des angoisses, des ténèbres, un questionnement ou de l'obscurité. Ça arrive à Abraham ici, ça manifestement est arrivé à David, nous en voyons des échos d'un nombre de choses. Ça arrive à nombre de prophètes, et même cela arrive ici parce que par exemple, se trouve sur la mer avec la crainte, la peur de périr. À cause de la tempête, alors même que Jésus est au milieu d'eux, la faiblesse de l'homme se manifeste facilement. Et cela, même chez le grand, même chez le petit. Et nous-mêmes, ne connaissons-nous pas ça, des moments d'angoisse, des moments d'obscurité profonde en nous. Cela ne remet pas en cause notre foi. Notre assurance que Dieu ne nous abandonne pas, malgré tout. Mais nous passons à l'occasion de projeter un deuil et une pensée de nos chères familles qui étaient vulnérables pour eux. Un deuil, une maladie, des soucis légitimes pour nous-mêmes, pour nos proches, pour notre vie, pour les soucis de famille. Mais parfois aussi, il faut le dire, c'est une expérience. Il n'y a peu des choses dont pourtant nous reconnaissons qu'elles sont minimes, mais qui nous angoissent, malgré tout nous remplissent une certaine obscurité, notre faiblesse. Il est si bon de savoir que Dieu connaît notre vie. Et comme il confirme à Abraham ses promesses après ce moment d'angoisse de celui-ci, de même, il nous rassure, il nous réconforte, il nous rappelle ses promesses, il nous rappelle sa présence et notre espérance. Et il est si bon de savoir qu'en Jésus, nous avons un Seigneur et Sauveur qui a lui-même connu angoisse, obscurité, ténèbres dans le jardin de Gethsémané et sur la croix, pour que nos angoisses les plus profondes soient chassées et ne puissent nous détruire. Nous n'avons pas, dit l'Épître aux Hébreux, en lui un souverain sacrificateur qui n'aurait pas idée, pas connaissance de nos faiblesses, de nos angoisses. Il a connu cela par amour pour nous, lui, le Saint et le Juste, lui, le Parfait, pour que nous ne soyons pas détruits. Et le contraire fortifié et vaincu. Le ténèbre, le monde, les lumières. Tout d'abord, les lumières illusoires. Combien de telles lumières n'a-t-on pu voir au cours des siècles de diverses sortes? De grandes figures politiques censées être des lumières. Nous en voyons par une petite trace, peut-être on dit, dans les livres. Les actes à propos du roi Hérode, acte 12, verset 21. Hérode revêtu, au jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et les harangua. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas de maison. Prolongé par des voyages, il expira. Hérode, une lumière. Et nous souvenons, avec angoisse, de l'idolatrisation de certaines, entre guillemets, grandes figures, qui pleurent. Parce que nous voyons des documents d'époque à la télévision, nous effrayons de voir ces masses se tourner vers lui, lumière du peuple, et d'autres masses, comme notre économie, d'autres moins célèbres, moins fameux, peut-être moins terribles. Le président Mao, notre lumière, disait, les citoyens chinois, peut-être, pour un moment sans doute, plus ou moins forcé de le dire, mais disait aussi les gauchistes de la santé. Et même, je me souviens d'un ancien président, pourtant pas tenu pour ses orientations de gauche, disant à la mort de Mao Tse-tung, une lumière de l'humanité s'est éteinte. Une lumière de l'humanité s'est éteinte. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, leur lumière est éteinte. Ils n'ont pas dans ces figures productives. Pour beaucoup, leur lumière, c'est leur conjoint, leur amoureux, la chair de leur chair. La lumière pour Roméo, n'est-ce pas Juliette, et pour Juliette, Roméo. Non pas la vie, mais l'amour dans la mort. L'amour, pourquoi pas, de la patrie, du travail, de l'argent. Vous avez une passion pour le football, pour le sport, etc. Tout n'est pas mauvais dans ces choses. Certaines même sont bonnes. Mais même celles qui sont bonnes, si elles sont poussées trop loin, et si on les prend en vie comme de vraies lumières suffisantes, on sera déçu, bien sûr. Certains vont vivre comme lumière des hommes ou des femmes célèbres, un petit point de. Un jeune homme dont la lumière était éteinte à la mort de Michael Jackson. Et des années après, ma vie s'est éteinte puisque Michael Jackson est mort. Et vous savez peut-être que Beethoven, par exemple, le grand Beethoven, a été l'objet d'un véritable culte à cette époque, après sa mort. Beethoven, aussi magnifique que soit sa musique, Beethoven, lumière du monde. Alors la lumière, ça peut aussi être des théories philosophiques, politiques, la science, le marxisme, le capitalisme, le psychanalyse. celle-ci, par exemple, la psychanalyse, peut devenir le centre, la lumière même de votre vie. Et après avoir passé des années et vous connaissant au plus profond de vous-même, que trouverez-vous vous-même? Et permettez-moi de vous dire cela. Je ne suis pas sûr que ça en va. Comme dit un personnage dans un roman que je lisais récemment de John le Carré, le personnage dit « Je ne veux pas vivre avec moi-même. Je ne peux pas penser à quelqu'un de pire avec qui vivre. » Alors la connaissance, la sagesse, la réflexion, il y a là certainement une orientation estimable, mais la sagesse des hommes ne sera-t-elle jamais suffisante pour être une vraie lumière, alors que peut-être ne semble pas le penser qui était corinthien, un corinthien qui regarde avec ses disciples. Christ, dit-il, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse qui l'engage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendu vain, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance pour Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les juifs demandent des miracles, les grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs. Et folie pour les grecs. Alors, les ténèbres, les lumières illusoires et puis la lumière de Christ. Nous ne pouvons pas ne pas laisser débuter l'évangile de Jean. Au commencement, Jean était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne vont pas vers nous. Il y eut un homme envoyé par Dieu, nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en ça, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. La vraie lumière, la seule vraie lumière, comme le disent ses versets, c'est le Christ. Il est la lumière. Il est lumière. Alors bien sûr, certains diront, beaucoup diront, mais comment pouvez-vous affirmer ça? Comment pouvez-vous rejeter toute autre lumière? N'est-ce pas orgueil ou ignorance ou naïveté? Pourquoi Christ est Christ seul? Qu'est-ce qui vous permet de rejeter toutes les autres religions, toutes les philosophies, tous les attachements? Alors nous ne disons pas que toutes les autres lumières n'ont aucune vraie, mais nous disons qu'aucune n'est suffisante pour nous éclairer vraiment. Et nous disons que Christ est la seule lumière. Qu'est-ce qui permet de dire? Qu'est-ce qui permet? L'enseignement. L'enseignement des évangiles, l'enseignement de l'apôtre Paul, et puis la vie même de Christ. Ces miracles, et par-dessus tout, bien sûr et finalement, la mort et sa résurrection. Si Christ est ressuscité, il est venu. Alors s'il n'est pas ressuscité, oui, il n'est pas venu, bien sûr. Mais si Christ est ressuscité, et honnêtement, il est difficile de nier la résurrection. Il est ressuscité. Et il est ressuscité. Il est vraiment le Messie, le Sauveur, la lumière du monde. Jésus-Christ n'est pas une lumière théorique ou lointaine, lumière du monde, mais une lumière lointaine, comme désincarné. Il est notre lumière, votre lumière, si vous l'avez reçue dans votre vie. Il est la lumière revenue dans les yeux de la veuve et née des antiquités. Il est celui qui illumine votre vie, celui qui change votre perception des choses, votre vision de la vie, votre vision de vous-même. Vous êtes, avant de connaître comme, pour prendre une image, comme dans une pièce sombre, complètement obscure, non éclairée. Vous cherchez la porte, vous cognez au meuble, vous cognez au mur, vous ne trouvez pas. Et puis tout d'un coup, la lumière s'allume, et tout est changé. Vous voyez, Christ est cette lumière qui nous éclaire. Dans le chapitre 9, Jésus dit en passant à un homme aveugle de naissance. Ses disciples demandèrent, Rabbi, qui a péché? Lui ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, c'est parce que lui ou ses parents aient péché. Et c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Un peu plus loin, verset 39, Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, et si votre péché est mort. Le chrétien vit les choses de la vie comme tout ça, mais tout ça, des choses heureuses, faciles, agréables, ou des choses parfois difficiles, fatigantes, stressantes, des choses douloureuses pour toi. C'est le lot commun. La vie est plus facile pour certains que pour d'autres. Et puis certaines périodes sont faciles et d'autres moins. Comment ce n'est pas pareil de vivre cette vie, en quelque sorte sur le niveau de nous-mêmes, sans perspective, sur sa perspective, perspective véritable pour l'avenir, sans espérance, seul finalement, ou au contraire de savoir que nous ne sommes pas seuls, que l'Esprit de Dieu est là, qui nous dirige, qui nous protège, qui nous habite. Oui, savoir que nous avons une autre perspective que de son père, parce que la mort physique n'est pas le dernier pour nous. Parce que la lumière de Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité et il nous précède. Et nous allons vers la lumière. Nous vivrons dans la lumière de Christ, dans cette Jérusalem céleste, dont nous parle le livre de l'Apocalypse, dans ce dernier chapitre. Je ne vis pas dans cette ville, dans cette Jérusalem. Je ne vis pas de temps par le Seigneur Dieu tout puissant et son temps. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son temps. Un peu plus loin, le chapitre 22. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Et ils n'auront besoin ni de la lumière du nord, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclaire et les rendra au ciel. Que faire de la lumière de Christ? C'est une dernière partie de notre réflexion. Premièrement, la recevoir. Jean chapitre 9, verset 25. L'aveugle est né, que Jésus retrouve. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Et le pauvre lui dit, crois-tu ce jeune homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Il a vu, il dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois en son nom. Et il l'a dit. Parce que l'aveugle naît, dit à Jésus, qui est-il, le fils de l'homme? Fils de Dieu. Et s'entend dire, tu l'as vu. Ça a évidemment une portée considérable, évidente, bouleversante pour lui. Toi, l'aveugle, tu as vu le Fils de Dieu. Une évidence, quelque chose que cet homme ne pouvait nier, ne pouvait rejeter, ne pas prendre en compte. Ma vie a changé. Je vois. Alors, il nous a été chanté, mais nous soutenons. Dans ce chant, à Maison d'Est, et dans ce chant, à un moment, I was blind, now I see. J'étais aveugle et je vois. C'est l'expérience. Cet aveugle a retrouvé la vie de manière en apparence moins spectaculaire, bien sûr, parce que c'est là l'expérience de la conversion. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais aveugle et maintenant je vois. Mais il faut accueillir, il faut recevoir cette lumière aussi. Paix à Dieu. Paix à Dieu que nous ne restons pas dans l'obscurité, dans les ténèbres. Refusons de recevoir cette lumière. Elle est lumière, Christ est lumière. Avons-nous, avez-vous reçu cette lumière? Il faut l'accueillir aujourd'hui, sans attendre ce jour où cette lumière vous écraserait davantage encore, comme le fit la seule de Pâques, sur la route de Damas. Vous connaissez certainement ce récit, sa rencontre, bouleversante avec la lumière du Christ. Acte chapitre 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et l'intégrera. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Paul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduira de main, sa vie, sans voir, et dans le temps. Que vous veniez de très loin, ayant totalement ignoré Dieu jusque-là, ou au contraire, que vous ayez baigné dans une atmosphère chrétienne depuis toujours. Dans tous les cas, vous devez dire les aimer de votre vie. Et dire comme ça, Seigneur, je veux tout pour vous. Mais qu'il est bon le jour, qu'il est bon le jour, où l'on vit éclairé de cette lumière merveilleuse. La recevoir, la lumière de Christ et la vie, et la pas vie. Après avoir reçu cette lumière, il faut la garder précieusement. Il faut l'abriter. En fait. Il ne s'agit pas, ayant reçu, de vivre ensuite comme avant, sans modifier quoi que ce soit de notre vie, ou en nous attachant aussi à d'autres lumières. Recevoir la lumière de Christ ne signifie pas, bien sûr, que vous ne deviez plus aimer votre conjoint, vos enfants, votre travail, etc. Mais que rien ne soit premier dans votre vie, en dehors de Christ. Que rien ne soit premier dans votre vie. Faisons attention à ça. Ne nous laissons pas envahir à nouveau par trop de choses, y compris même par des choses bonnes, mais qui ne doivent pas être premières. Même des choses d'église, par exemple, qui ne doivent pas prendre la place de notre relation. Cet appel est fait aux Éphésiens. Autrefois, dit-il, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien de commun avec les œuvres terribles des ténèbres, mais plutôt dénoncez. Marchez, vivre en enfant de lumière, quel beau programme. Toute notre vie va se trouver impliquée dans ce programme. Vivre la lumière. Alors vivre la lumière après l'avoir reçu, c'est encore de voir la refléter. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples en Matthieu, chapitre 5. C'est vous, dit-il, qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père et vos dessus. Vivre la lumière mène forcément à la refléter. C'est là aussi sur quoi le chrétien est appelé. Non pas donc mettre notre lumière bien à l'abri sur le boisseau, mais qu'au contraire, elle soit mise sur un chandelier pour briller et illuminer autour de nous. Alors bien sûr, notre reflet de lumière sera souvent bien modeste, mais précieux cependant. Comme la lumière distante et faible d'un phare guidait malgré tout les navires pour leur éviter les écueils. De même, le reflet de la lumière de Christ que nous pouvons dispenser peut être un signe vital, un repère pour ceux qui nous entourent, que nous rencontrons, qui peuvent nous entendre, nous leur dire. Mais bien sûr, ce reflet ne sera vrai reflet que s'il reflète la vraie lumière, la lumière de Christ. Il ne s'agit pas de nous prêcher nous-mêmes ou d'annoncer autre chose que l'Évangile. Notre reflet de la vraie lumière ne serait être un message social ou philosophique ou politique. De même, notre reflet ne sera de faible qualité, voire même un anti-reflet si notre conduite, nos propos, notre exemple démontre ce que nous prétendons refléter. Je prétends refléter Jésus-Christ et sa lumière. Mais vous m'avez entendu dire du mal de mes frères et sœurs, ou mal parler à ma femme, ou me conduire en voiture comme un sauvage, tandis que Christ est descendu pour entendre une voiture à ce moment-là, mais il est important, bien sûr, de refléter la lumière de Christ en étant honnête et véritable. Mais alors, quel beau programme, mon frère ? Et bien sûr, pour cela, il faut la vie. Recevoir cette lumière de Christ, la vivre, la refléter, sont des choses indissociables, des choses merveilleuses auxquelles le chrétien est appelé. C'est là sa vocation. Combien Dieu veut nous donner la vie qui va avec la lumière et qu'il est bon de rester avec nous par son esprit pour nous permettre de vivre cette lumière et d'en être le messager. Il n'y a pas de vie sans lumière, sauf peut-être que parfois sont des grandes profondeurs d'océan, puis certains organismes. Mais les plantes, les arbres, les fleurs, les animaux, l'homme ont besoin de lumière. L'homme en particulier a besoin et cherche des lumières. Il cherche des lumières. Ses recherches et ses attachements le mènent parfois, très souvent, dans des voies qui s'égarent. Et qui ne feront que le décevoir. Nous croyons qu'il est une lumière unique, irremplaçable, merveilleuse, parfaite, qui est Jésus-Christ. Et nous sommes chrétiens, disciples, convertis de Jésus-Christ. Nous nous efforçons, ayant reçu la lumière de la vie de la recette. Essayons, mes amis, mes frères, mes soeurs, essayons de la refléter toujours plus fidèlement. Efforçons-nous de briller devant les hommes, comme Jésus l'incite ses disciples. Efforçons-nous à cela avec zèle, enthousiasme, modestie aussi, sachant comme nous sommes insuffisants par nous-mêmes, pour certains, en sachant que Dieu lui-même travaille en nous. Et amis qui n'êtes pas encore, qui n'avez pas encore reçu cette lumière, regardez un peu le reflet que nous tentons de produire. Mais ne vous découragez pas en observant nos femmes, nos lumières bien modestes. Regardez au-delà à Christ lui-même, à celui qui seul est la vraie lumière. Et que nous croyons, que devenir aussi votre lumière pour cette vie et pour l'éternité.